Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous êtes bien sur Radio Grande Contrôle.
On mange quoi, Julien, là ?
On mange un petit assortiment de salade toute fraîche de chez Boulhomme avec un giant sandwich.
C'est pour moi, ça ?
Exactement.
Mais c'est un sandwich XXL.
Mais c'est pas un sandwich, là.
Oui, c'est pas vraiment un sandwich, c'est plus une tartine, non ?
Non, c'est un sandwich puisqu'on a cuit en fait le pain, donc on a mis dans la pâte au levain une pâte d'olive verte qu'on a coupée au dernier moment. On l'a fait pousser pendant une heure, on l'a coupée au dernier moment et enfournée pendant 45 minutes. Et donc, il s'ouvre et on peut effectivement le garnir. Et maintenant, donc, ça fait un sandwich à partager pour plusieurs personnes.
T'aimes bien, Delphine ?
J'aime beaucoup.
C'est bon, ça, non ?
C'est hyper bon.
Bon, ça commence très, très fort, ce déjeuner, non ?
Ouais, mais attends, on n'a pas tout, là.
On n'a pas tout ?
Bah, c'est quoi ? C'est du curcuma, ça ? Quinoa curcuma ?
Oui, exactement. Il y a du curcuma dans la salade de quinoa avec quelques asperges et une vinaigrette corsée au jus de mandarine réduite.
C'est donc marrant. En fait, tu trouves du curcuma partout maintenant. Ouais.
Mais c'est très bon, ça nous vaut du bien.
C'est très bon pour la santé.
Tu penses à notre santé alors ?
Oui, bien sûr. Je me dis tout le temps avant de faire une recette.
Et tu nous sers quand même une salade de pâtes. Il faut quand même le faire pour faire une bonne salade de pâtes. C'est pas gagné.
Exactement. Mais en fait, c'est l'un des plats qui fonctionne le plus et qui plaît le plus parce que je pense qu'on essaie tous d'en faire à la maison. Et là, on l'a faite plutôt simplement avec du pistou, quelques fèvettes, petits pois frais et des chipirons juste raidis au dernier moment à la poêle.
Qui n'aime pas les pâtes ?
Hey, mais la question, c'est qui n'aime pas les salades de pâtes ?
C'est ça.
On se régale, non ? Ça commence bien ? Bon, il est 13h, moi je crève de faim, un peu comme tout le monde, je pense. On y va ? On a faim.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
Mange, ma fille.
Avec du bon ?
C'est chaud !
Chaud !
Ah, c'est chaud !
Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
Chaud, sixième. On est très heureuse de recevoir aujourd'hui Delphine Plisson et Julien Duboué.
Bonjour Delphine, bonjour Julien.
Bien bonjour.
Ça va ?
Bonjour, très bien.
Bon, vous avez deux jobs pourtant très différents. Julien, tu es chef. Delphine, on peut dire que tu es épicière.
Ouais.
Mais vous avez beaucoup de points communs. D'abord un bagout, une énergie hors du commun. Vous êtes des meneurs d'équipe et des restaurateurs slash entrepreneurs. Et rien ne semble pouvoir vous arrêter. Et nous, on vous a invité ici car on vous suit depuis longtemps. On est assez bluffés par votre énergie et votre capacité à déplacer les montagnes. Julien, on vient d'apprendre que tu avais un nouveau projet à la Défense.
Ouais.
Tu développes en parallèle les recettes d'Alba, dont tu vas nous parler.
Exactement.
Et tu fêtes les 1 an de ton restaurant Boulhomme. Ça va, pas trop abusé ?
Non, ça va très bien. On l'a fêté, donc ça va encore mieux.
Donc t'es encore plus fatigué.
Non, non, même pas, même pas.
Tu t'en es remis, c'est bon ?
Ouais, c'est, la nuit a été longue.
Et les 1 an, enfin, quel constat tu fais de ces 1 an ?
Les 1 an ont été magiques. Hein. On a eu une énorme ouverture, un petit flottement. Bon, août, de toute façon, on avait fermé, donc juillet-août. Et là, depuis septembre, c'est la folie. Quoi. Et on vient d'apprendre, on a eu en même temps les bilans, donc on vient d'apprendre qu'on est sur les clous d'Anost après 1 an d'ouverture.
Anost, qui est une autre adresse que tu as dans le deuxième arrondissement.
Ouais, ouais. Donc, je ne pensais pas arriver à autant de choses en 1 an.
Tant mieux pour toi. Delphine, toi, tu es inaugurée il y a quelques mois à la Maison Plisson, deuxième du nom, place du Marché Saint-Honoré à Paris, après celle du boulevard Beaumarchais, qui est la maison historique, qui compte également un restaurant que tu ouvres depuis peu le soir, place du Marché Saint-Honoré. Et pour fêter ça, tu t'es associé les services d'Armand Arnal, le chef de la chasse à Niette, avec qui tu
as eu
une série de dîner en résidence. Pourquoi lui ? Pourquoi Armand Arnal ? Qu'est-ce qui te touche dans sa cuisine ?
Alors ça s'est fait de façon assez spontanée. D'abord, on a eu effectivement envie d'ouvrir le soir parce que le quartier s'y prête énormément, plus qu'à Beaumarchais en l'occurrence, et que les clients nous le demandaient beaucoup. On a commencé par faire apéro, puis on fermait à 21h, et les gens restaient finalement jusqu'à 22h. Donc on s'est dit, bon, on va officialiser le truc, voilà. On va ouvrir le soir. Et on s'est dit que ça serait chouette, dans la mesure où on est aussi évidemment une épicerie, avec les marchés frais et compagnie. Ça serait chouette de pouvoir parler des régions, puisqu'on a 7000 produits à la Maison Plisson qui viennent de toutes les régions françaises. Donc on s'est dit, ça serait marrant d'inviter des chefs en résidence au restaurant et tant qu'à faire, d'inviter des chefs qui travaillent dans des régions et qui représentent des régions.
À commencer par la Camargue.
Et donc on s'est dit, on va commencer. En fait, j'ai fait une liste de façon très simple. J'ai proposé aux chefs que j'aime bien, chez qui je vais quand je peux, quand j'ai la chance d'être dans le coin et d'être dans ces régions-là. Donc j'ai pensé en premier lieu à Armand, qui n'aime pas la chassagnette quand on a eu la chance de pouvoir s'y arrêter, boire un verre dans ce potager incroyable, ou déjeuner ou dîner sous la volière. C'est quand même un endroit hors du temps, avec ce potager incroyable. Donc, il a accepté tout de suite et on a eu le plaisir de pouvoir monter ce projet ensemble pour les 6 semaines qui viennent.
Ouais. Donc, il sera pendant 6 semaines à la Maison Plisson, Saint-Honoré.
Il est venu donc mettre en place. C'est ce qui nous plaît aussi, c'est que du coup, il a travaillé avec toute la brigade de la Maison Plisson. Donc, ils se sont calés ensemble autour des recettes. Il y a une entrée, un plat, un dessert qui reste à la carte des restaurants et à Beaumarchais et à Saint-Honoré jusqu'au mois de mai, jusqu'à l'arrivée du prochain chef résident.
Et alors, qui est le prochain chef résident?
On ne le saura pas. Moi, si, je peux vous le dire, c'est pas vraiment un secret d'alcôve. C'est Catherine et Hervé Bourdon du petit hôtel du Grand Large à Portivy. D'accord. J'adore aussi, chez qui je vais régulièrement et qui sont non seulement un couple épatant, mais qui représentent une région qui m'est chère et qui travaillent, qui font une cuisine merveilleusement généreuse, gourmande, tout ce qu'on aime.
Amina évoquait votre énergie à l'un à l'autre, à votre capacité à déplacer des montagnes. Ça vous vient d'où cette force? Ça vient de l'enfance, ça vient de cette confiance en soi, l'envie de croire en son destin. On t'entend, Delphine, toi tu parles beaucoup des rencontres qui te nourrissent, ouais. Vous avez la foi un peu en vous, en vos projets, en votre étoile, Julien?
Oui. J'aurais aimé entendre Delphine en premier, comme ça je me serais servi de son discours.
Franchement,
je ne sais pas moi d'où ça vient. En fait, je ne me donne pas de but ni d'objectif à atteindre. Quand je me balade ou que je voyage ou que je suis même en scooter, j'ai une idée et quand j'ai une idée, elle reste en tête et je l'accomplis et je vais au bout. Alors c'est vrai qu'elle est très vite construite, donc même peut-être avant même d'avoir mis le pied par terre du scooter, donc en l'espace de 10 minutes. Après ça prend un an pour la concrétiser, mais j'ai une idée, je me fixe un but d'ouverture à telle date. Ça, par contre, je le fais dans la même journée et je respecte tout le temps et toutes mes dates d'ouverture.
Mais donc, tu as une idée et tu as la date d'ouverture prévue
dans la journée.
Mais tu as déjà les investisseurs.
J'ai pas d'investisseurs. Je suis tout seul. Après, je bricole. Et quand j'ai pas assez de sous pour payer les mecs qui bricolent, je bricole moi-même. Ah ouais. Donc je fais tout. Enfin, je sais pas comment je fais, mais je me débrouille pour ouvrir et j'ai toujours ouvert aux dates prévues.
Et toi, Delphine, t'as un fonctionnement un peu similaire à celui-ci?
Ouais, sans doute un tempérament assez proche, en tout cas avec une énergie. Je suppose qu'on est né comme ça. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est.
Est-ce que vous fatiguez votre entourage?
Oui, bien sûr. oui, j'ai quand même épuisé 3 maris. Donc... je dois en déduire qu'il doit y avoir un sujet. Mais non, sans doute, oui, effectivement, je le dis régulièrement. Ma mère dit régulièrement que c'est bien que je sois la seule à être comme ça dans la famille parce qu'on se serait entretués depuis longtemps. Il y a un truc qui est de l'ordre d'Obélix. Quoi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, de toute évidence. Et depuis, je n'ai de cesse d'essayer à la fois de canaliser pour que ce soit constructif et en même temps de pouvoir savourer la chance d'avoir une énergie pareille. Ouais.
Mmh. On l'a dit, vous avez des parcours quand même très différents. Toi, Delphine, tu viens de la mode. Julien, tu as un parcours plus classique dans la cuisine. Delphine, tu avais un gros poste, tu gagnais très bien ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
Enfin, on imagine que tu gagnais très bien ta vie.
Voilà, là, t'as des infos super précises, dis-moi. Tu as toujours su que tu ferais ça ou ça t'est venu soudain? T'as une lassitude?
Non. J'ai toujours espéré que ça existerait, ce qui est assez différent. C'est-à-dire que je vivais à New York à la fin de mes études, au début des années 90, et que j'allais régulièrement chez Dinen De Luca. J'avais pas beaucoup de sous parce que j'étais étudiante.
Dinen De Luca, faut juste rappeler ce que c'est une espèce de food emporium.
Ouais, à l'américaine. C'est sur Broadway, en l'occurrence. Il y en a plusieurs dans New York, à l'époque. C'était une épicerie à la fois chic, mais surtout super axée autour du plaisir. Et ça, c'était vraiment une dimension que je trouvais géniale. Ils avaient vraiment compris à quel point c'était important d'associer l'alimentation au plaisir. Et quand je suis rentrée en France, j'en parlais à tout le monde en me disant, le jour où ça va exister, dans le pays qui incarne l'alimentation, la gastronomie, la cuisine, etc., dans le monde entier, ça va être génial. Et puis j'ai attendu. Il s'avère qu'effectivement, j'ai eu une vie professionnelle par ailleurs, par hasard. Je suis rentrée à la mode par hasard. Et les 20 années que j'y ai passées sont passées assez vite, vous verrez, ça passe vite. Au bout d'un moment, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire de la deuxième partie de ma vie. Et ça s'est imposé très naturellement. Je me suis dit, mais après tout, ça vaut le coup d'y réfléchir. Un peu comme Julien le disait, j'ai eu l'idée d'aller sur mon scooter. Le soir, j'ai commencé à en parler un peu. Le lendemain, je commençais à... Pas loin. En tout cas, je m'étais dit que ça pouvait pas... Je m'étais donné un délai. En me disant, si j'y arrive pas dans ce délai-là, c'est que c'est, voilà, une, je vais me lasser, deux, c'est que c'est, ça va être trop compliqué, il faut savoir aussi avancer, quoi.
C'était un projet un peu fou. Comment est-ce que ton entourage a réagi? Est-ce que tu t'es sentie soutenue, épaulée?
Les deux, c'était un projet un peu fou, mais je m'en rendais pas compte parce que précisément, je venais pas de ce milieu-là, donc j'avais pas la notion de tout ce qui est autour de l'alimentation et de la restauration en France. Donc c'est souvent assez sacralisé. On respecte les gens, les choses, les produits, etc. Moi, je respecte plus les gens qui font les produits et les produits que le reste. Donc sans doute, j'ai eu l'audace de le faire parce que je venais pas de ce monde-là. Je me souviens qu'au début.
Oui, une part d'inconscience un peu.
Oui, une part d'inconscience et puis j'avais quand même préparé un business plan, les choses étaient quand même assez cadrées, je dirigeais des boîtes avant, donc j'avais une notion de gestion qui était quand même suffisamment avérée pour savoir à peu près dans quelle direction j'allais et si c'était jouable. C'était pas un caprice, c'était un projet qui me semblait d'une part important parce qu'il portait des valeurs qui me semblaient quand même manquante et ou nécessaire à l'ère où on a un peu envie de savoir ce qu'on mange et pourquoi et quand et donner du sens un peu et du bon sens aux choses. Mais il fallait travailler. Après, j'ai été soutenue par, comme tout le monde dans ces cas-là, comme tous les entrepreneurs, par les gens qui croient en nous, quoi qu'il arrive. On ferait n'importe quoi, je pense qu'ils seraient d'accord et qu'ils trouveraient ça super. Et puis, après, il y a toujours aussi les gens qui ont un peu peur, qui doutent, qui ont peur pour nous, ce qui est plutôt bien. Ça part d'un bon sentiment, mais ça peut être un peu un frein, ça peut faire peur. La peur, c'est ce qui peut nous arriver de pire. Il n'y a pas de pire ralentisseur que la peur.
C'est
donc,
aussi un moteur, quelque part.
Non, ouais, j'ai pas besoin, moi, de moteur. Hein. Ça va bien sur ce plan-là. Donc, en moteur, j'ai ce qu'il faut. Après, du coup, l'idée, c'était de m'entourer des énergies positives et puis des compétences qui me manquaient pour pouvoir construire le projet, aller au bout. Mais ça s'est construit un jour à la fois. Alors, il s'avère que j'ai beaucoup d'enfants, mais je me rends compte que c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que si j'ai envie d'un enfant et qu'on m'en donne un demain matin, ça va pas être le bon moment. Je suis pas prête, je suis pas organisée. Une boîte, c'est pareil. On a besoin d'un peu de temps pour construire les choses, mais du coup, ça nous permet aussi d'assimiler les infos, l'idée, de donner le rythme au projet. Donc, quand ça a ouvert, ça m'a semblé normal. Mal. Enfin voilà, j'étais contente d'être arrivée au bout, mais c'était le fruit du travail qu'on avait mis dedans, quoi.
T'as jamais eu envie de jeter l'éponge ?
Toutes les 40 secondes, je pense, mais pas au point de le faire. C'est-à-dire que là, pour la peine, j'ai un tempérament qui... Je vois toujours le verre à moitié plein, voire très plein. C'est ma nature.
Comment tu fais ?
Comme je... D'abord, j'ai 47 ans et demi, donc je pense qu'il y a un truc qui s'acquiert aussi. Avec l'expérience, ça a des bons côtés.
Donc je pense que... T'es plus optimiste avec le temps, tu penses ?
Sans doute plus sage, en tout cas. Une espèce de truc où j'ai compris qu'en fait, ça sert à rien de paniquer ou de trouver une idée formidable à 3h30 du matin. Le mieux, c'est de dormir, de se reposer, de travailler et que comme n'importe quel entrepreneur sportif ou type qui a un projet important pour lui, mieux il est préparé, moins on a de chances de se planter quand même. Donc il n'y a rien qui remplace le travail et la foi. Faut y aller, quoi.
Julien, moi je t'ai rencontré dans une toute petite adresse dans le 15e arrondissement, tu te souviens?
Oui, forcément.
À Faria.
Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle encore de ce que vous avez mangé.
Non, vas-y. Vas-y, redis-moi, je vais te
tourner. La première carte, c'était... François Régis, la première plat qu'il a mangé, c'était une dorade. Il était venu, donc c'était une dorade avec des spaghettis paella. Et la première carte, il y avait une échine de cochon confite avec des légumes. Il y avait le boudin aux pommes. Je n'ai plus l'autre entrée.
Je ne me souviens plus non plus, mais je me souviens du boudin.
Ouais,
boudin. Et je me souviens effectivement de m'être dit à l'époque qu'il y avait une petite révélation, un petit miracle qui se produisait.
T'avais quel âge ?
Ouais, mais 26 ans.
C'était en 2006, non ?
2007, exactement. 2007. Début 2007, c'était pour la Coupe du Monde de rugby en France, donc je me rappelle.
Un fil rouge dans ta vie.
Ouais, mais pour moi, ça a été.
Date de rugby.
Ouais, mais ça a été une chance énorme. C'est que j'ouvrais, je suis fan de rugby. Grâce à ça, Yves Carnebord avait prévu 18 matchs à aller voir et il faisait tous ses avant-matchs à Faria. Donc forcément, il venait avec des journalistes. Sportif, gastronomique, et c'est comme ça en fait que l'histoire est née derrière. Donc,
est-ce que tu savais à l'époque que tu aurais sans doute beaucoup d'adresses à suivre et que tu ne resterais pas forcément très longtemps chez Afaria. Est-ce que le destin de patron de bistrot unique au fin fond du 15e était quelque chose qui te convenait ou est-ce que tu pensais déjà à un champ des possibles beaucoup plus large ?
Qui me convenait parfaitement et qui convenait à tout mon entourage. Un peu comme tout à l'heure, moi quand j'ai dit à ma mère que j'ouvrais un autre établissement, ben voilà, elle sautait au plafond. Hey, tu vas faire comme... j'allais citer un nom, mais...
Tu vas
faire comme l'autre, comme Ducati, qui va ouvrir je sais pas combien d'affaires, après tu vas te perdre. Et c'était sa peur, quoi. Mais elle m'a pas parlé pendant 2 mois. Hein. Et mon comptable, pareil. Quand, au bout de 6 mois, 1 an, à Faria, j'ai ma table d'hôte qui est pleine 1 mois avant, mais au comptable, je vais le voir. 8 mois après, je lui dis, OK, ben, j'ouvre un autre restaurant avec que les tables d'hôtes. Monsieur Dubouet, c'est hors de question. On n'a pas fait de premier bilan. Business plan, moi, je n'en avais pas fait du tout. Hein. Je ne savais même pas ce que c'était, moi, à l'époque. Donc, j'ai ouvert, j'ai fait à manger. Et pour la deuxième affaire, non, c'est hors de question.
À Nost, c'est la deuxième
Dans les Landes, il y a eu.
Ah, dans les Landes,
dans
oui,
le 5e,
dans les Landes,
il n'y avait que les tables d'hôtes.
J'y allais tout le temps.
J'adore. Dans l'Ordre, il y avait quoi ? Il y a eu dans les Landes, dans le 5e,
à Nosté. À Nost. Après les petits, donc à Miac. Et les deux corners.
Et Boulogne. Et bientôt la Défense. C'est quoi
et
la Défense ?
Et bientôt la Défense.
T'as le droit d'en parler ?
Oui, ça y est. Enfin, ça y est, non, mais parce que
c'est pas signé. C'est pas grave.
C'est en juin-juillet, donc c'est très vite.
Bah, c'est demain, ouais.
Ouais, c'est demain. Mais c'était pas prévu.
La date.
Sur le gros truc, c'était ici les Moulineaux, en fait. Que ça, on a réussi à gagner, mais ça, c'est pareil, je sais même pas comment.
Ah, t'as aussi ici les Moulineaux ?
Ah oui, on ouvre un énorme projet ici les Moulineaux.
Ah, mais je pensais que tu parlais de ça, moi, j'ai entendu.
Non, c'est différent.
C'est énorme.
Ah ouais, on peut comprendre de quoi il s'agit.
Alors, oui. Donc, on m'appelle pour venir en tant que chef, pour reprendre un projet, un restaurant de 1000 m² dans une tour de 40 000 m² à Issy-les-Moulineaux. Donc autant vous dire que ça ne me fait pas rêver. Le mec, je l'envoie chier au téléphone pendant 10 minutes. Je lui dis arrêtez de prendre les chefs pour des cons. Moi, je n'ai pas d'investisseur. Je n'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Je suis très bien chez moi avec mon fonds de commerce, etc. Il me dit, monsieur Dubouet, j'ai déjà entendu votre discours. Donc donnez-moi... Vos prérogatives et peut-être qu'on pourra se voir. Donc je lui dis, ben moi, il me faut l'enfant de commerce, il me faut tant un loyer, tant ceci, cela. Il me dit, très bien, on peut se voir demain, j'ai une proposition. Et ben voilà, et je me suis retrouvé 2 semaines après avec 18 personnes devant moi, dont les boss de Bouygues, Primonial, etc., avec mes croissants et mon bout de pain. Et j'ai parlé pendant 2 heures et 2 semaines après, on a eu la réponse. Invraisemblable.
Incroyable.
22 chefs dessus. Et
t'as été sélectionné.
Même moi, j'y croyais pas.
L'alignement des planètes.
Ouais. Non, mais ouais. C'est dingue. 3 semaines après, on se retrouve, enfin, le 3e rendez-vous que l'on a, j'arrive là-bas, ils nous mettent la vidéo du bâtiment que j'avais même pas regardé, moi, sur Internet. J'ai pris peur, quoi. Quand j'ai vu le bâtiment de 48 mètres carrés, l'esquisse des architectes du restaurant avec le food court, les 4-5 pôles à tenir, etc. C'est là où j'ai réalisé, en fait, au bout de 3 rendez-vous. Donc,
et maintenant, t'es confiant et content.
Ouais, non, je suis très confiant, très content. Ça se passe très bien avec eux. Ils ont accepté tous mes points.
Ça se passe donc bien.
Et du coup, non, on a un projet dans les mains qui est magique. On va, voilà, agrandir nos récoltes dans le sud-ouest, même autour de Paris, si vous voulez tout savoir. On a un autre projet dans le projet. Donc, il y a plein de choses qui se greffent à tout ça et c'est magique, quoi.
Delphine, tu parlais d'alignement des planètes. Je suis sûre que la réponse est non, mais quand même, est-ce que vous pensez parfois...
C'est sûr que non.
C'est sûr que non. Dans 10 ans, vous pensez à ce que vous aimeriez être, à où vous aimeriez être ?
Vivante.
Ouais. C'est déjà pas mal.
La réponse est non. Je prends ça comme réponse. Vivante, ça me paraît être un beau projet déjà.
Mais en termes de business pur, vous dites
non,
pas...
Non, j'aurais 4 moyens de te le dire. Écoute, je vais te dire, j'ai rencontré tellement dans ma vie professionnelle précédente et même encore aujourd'hui de gens qui me parlent de leur projet à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans.
Mais c'est pas d'ailleurs flippant les gens qui disent ça ?
En fait, je pense que c'est un moyen de se rassurer comme un autre et puis de se cadrer, j'imagine, de construire un truc. Je me rends compte aussi que ça se passe jamais comme tu l'avais anticipé ou prévu ou espéré. Et puis ça se joue tellement aux rencontres. Enfin, je pense que des personnalités comme nous, 90% du projet, il va se faire à la rencontre, au coup de cœur, au truc qui n'était pas prévu hier mais qui est formidable demain. Donc c'est pas des trucs que tu peux anticiper et heureusement, parce que sinon, ça ferait, notre métier serait chiant. Enfin, il y a un truc qui est lié à l'humain, qui est quand même hyper central, quoi. Donc,
Julien, j'imagine que oui.
Mais pareil, il y a pas de futur. Ce que je disais tout à l'heure au début, est-ce que je m'imagine pas dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je ne l'ai pas fait il y a 10 ans non plus.
Mais a priori, tu feras pas une reconversion
comme la mode.
Delphine, tu vas bosser dans la mode.
Mais je vais t'aider. Hein. On a de la chance. Enfin, moi, en tant que cuisinier.
Tu vas devenir DG de Dior.
On voit beaucoup d'avocats, etc., passer en cuisine ou de.
Moi, j'en ai énormément déjà en reconversion.
Exactement. Il y a beaucoup de reconversions. Et nous, on a de la chance, cuisinier, où on a eu les mains dans les gamelles pendant 10, 15 ans. Et aujourd'hui, on touche au métier d'avocat, au métier de comptable, au métier de gestionnaire, au métier de manager, au métier de. Alors, moi, c'est un régal. Donc, qu'est-ce que. Quoi faire de plus ou de mieux aujourd'hui? Moi, je suis heureux comme tout.
Et parce que tu es aussi, continue, avec Boulam, tu es aussi boulanger.
Oui, exactement. Donc, j'ai découvert un autre métier.
C'est dingue.
Et j'ai même d'autres métiers à découvrir. Enfin, je suis en train de les lancer sur de nouveaux lieux. Mais la boulangerie, en fait, j'ai eu l'envie de faire en manger dans un four à pain. Donc, à la base, c'était la cuisine. Là-dedans, j'ai su que j'allais devoir faire du pain. Donc, j'ai repris la même genèse que j'utilise depuis le début, c'est-à-dire le sol que l'on a, les terres que l'on a en France, de les cultiver, donc de planter ma propre population de blé, donc 27 blés en bio différents, au village, avec des copains avec qui j'étais au collège, qui n'en avaient jamais planté de leur vie, mais je suis allé les voir, on a appris ensemble, on a planté, et on a récolté nos farines pour faire notre pain. Mais c'est un peu ce que je fais dans les légumes que l'on mange là. La plupart viennent du jardin de mes parents et des terres que l'on a autour. Donc j'ai appliqué en fait ce que je vois depuis tout gosse dans la maison de mes parents sur le pain. Alors ok, ça se faisait peut-être pas beaucoup dans un restaurant, mais voilà, la preuve que tout est possible. Et j'ai même pas pris de boulanger pour tout vous dire. Donc j'ai pris un pâtissier qui est top, Mathieu Dalmé.
Il est top, Mathieu.
Ah ouais, mais il est génial. Et je lui ai dit, bon voilà, si tu veux venir pâtisserie, moi j'ai des idées sur la carte à peu près, faire des choses plutôt simples, mais il faut qu'on fasse le pain ensemble. Il me dit, mais ça me plaît, je suis ravi. Et puis voilà, on a foncé quoi.
Ok. Super. Vous êtes tous les deux successful, mais on imagine qu'il doit y avoir des choses...
Non, pas trop.
Non, pas vraiment. Mais on imagine qu'il doit y avoir des choses que vous foirez quand même.
Putain.
Donc,
il y en a plein.
Tu veux vraiment savoir. On vous a préparé une interview grosse tôle.
Ah, très
et c'est
bien.
Surtout pour toi, Julien, je sais pas pourquoi.
Bah, pourquoi.
Mais pour vous donner un peu de courage, un peu de cœur à l'ouvrage, on a rempli vos verres, on vous a porté un coup à boire. Ça vient de chez mon caviste, la rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement. Les verres sont déjà pratiquement
vides. C'est là où on peut dire que c'était très bon.
C'était très bon en l'occurrence.
Ça s'appelle Poisson Rouge, ça vous plaît?
Ouais. Excellent.
Très excellent, bien. C'est un vin rouge super léger, vinifié comme un blanc. Il est pressé sans macération, mais il est quand même rouge parce que la pulpe est rouge. Il n'y a pas de tanin, pour ainsi dire. Le cépage, c'est l'Alicante Boucher. Un cépage, paraît-il, vraiment bizarre. Alors, bon, je ne suis pas chroniqueuse vin, donc si mon caviste me dit que c'est un cépage vraiment bizarre, je m'en tiens
pour l'info.
Voilà. Zéro sulfite bio, mais zéro sulfite. Quand même, ça reste un vin certes léger mais cadré qui part pas en vrille, plutôt court en bouche, léger, digeste. Non,
et
ça vous convient.
Plein de fruits, hyper agréable et voilà. Et on a envie d'un deuxième verre.
Tu sais
que ça vient de moi. Ce vin.
Ah bon,
ça vient de chez toi. Ouais. Ça vient de Domaine Clairac, qui est du côté de Béziers, parce que Mina est une digne représentante de l'Hérault.
L'Hérault.
C'est Misero.
7000 représentants.
Voilà. On ne croirait pas, parce que c'est plutôt très léger et très
facile. C'est très léger, j'aurais pas mis ça aussi.
Il est vinifié par une femme américaine qui s'appelle Deborah Noland, qui bosse super bien. Et j'ai deux bonnes nouvelles, c'est 11 degrés et 10,20 €.
Eh ben dis donc.
Parfait, non ?
C'est pas mal pour un déjeuner du samedi.
J'ai noté l'adresse du caviste.
Poisson Rouge, j'adore ce petit vin. Découverte du jour.
Ouais. On commence avec l'interview ?
Ouais, question
tôle. Ça me fait peur, moi, je vais partir.
Déjà. Non, c'est gentil.
Non, c'est facile.
On a des dossiers sur toi, mais on les sortira après, Julien.
Après, dans la même émission ou
micro coupé.
On fera le off.
Julien, ton pire ratage en cuisine.
Mon pire ratage en cuisine. Ah oui, l'un des premiers plats que j'ai fait à la maison, avec le premier livre de cuisine que j'ai gagné, que le cuisinier m'a offert lors de mon premier stage, c'était au collège en 4e. Donc j'avais devant moi un livre de cuisine et j'ai fait acheter à ma mère des soles. C'était la première fois de sa vie qu'elle en a acheté. Autant vous dire que ça a été un combat pour qu'elle y en a acheté.
C'était un peu cher en plus.
Mais c'est ça, c'est que nous, à la maison, on mangeait plus la viande que l'on élevait que du poisson de Cabreton. Donc elle est partie acheter des soles et j'ai fait des soles glacées bonne femme. Ouais. Sauf que j'ai mélangé, on a cherché dans le lexique, glacé sous la salamandre et glacé des oignons. Donc j'ai rajouté un kilo d'oignons glacés là-dessus. Et c'était des soles glacées aux oignons, en fait.
Mais c'était mangeable ou c'était vraiment affecté?
Ah, mais c'était un régal. Ma grand-mère était là. Donc elle m'a dit que c'était le plus beau plat qu'elle a mangé de sa vie, évidemment.
Ça me fait penser dans Friends, quand Rachel, elle fait le gâteau, les pages sont collées et qu'il y a des petits pois avec du bœuf dedans, la recette.
C'était génial.
C'est un peu la même chose.
Ah oui, c'est exactement ça.
Bon, Delphine, même punition, même motif, parce que t'es épicière, certes, mais t'es aussi restauratrice et tu cuisines beaucoup.
Ouais, je cuisine beaucoup. J'ai un raté qui me reste en tête parce qu'il est quand même assez récent. Drôle. Non, il est pas trop récent, mais j'avais reçu des amis à la maison aussi. J'avais voulu faire flamber des langoustines et je maîtrisais moyen le truc. Et puis on avait un peu bu aussi.
Oh, et jamais cuisiné quand on est bourré.
Ah bah, du coup, tu cuisines quand? Non, mais du coup.
C'est pas à 16h, quoi.
Alors, j'ai flambé et je suis arrivée dans le salon et tout le monde m'a regardé bizarrement parce que j'avais plus de cils, j'avais plus de sourcils, j'avais plus beaucoup de cheveux.
Ah ouais,
j'avais bien flambé quand même.
Un vrai accident industriel.
La langoustine, ça en était plutôt mieux sorti que moi.
La langoustine s'en souvient. Delphine, tu as la parole, tu la gardes. La pire remarque qu'on t'ait faite quand tu te lançais dans l'aventure Plisson. Commentaire le plus bête, quoi.
Le commentaire le plus bête, je l'entends encore, mais c'est et votre mari, il est d'accord?
Ah, l'enfer.
Ouais, et je l'entends quand même.
Tu réponds quoi dans ces cas-là?
Je l'entends, je sais pas. Et vous, votre mari, il est d'accord? Surtout quand c'est un mec, ça m'amuse. Mais non, je trouve que c'est la remarque la plus conne parce qu'elle est tellement pas constructive, tellement passé, enfin,
j'ai
un mal de chien à l'entendre, mais de plein de gens, y compris de femmes. Faut pas croire. Ouais, il y a quand même un a priori sur. Et puis les gens qui arrivent au resto ou à l'épicerie qui disent est-ce que je peux rencontrer le patron? Et quand j'arrive, ils disent non, mais le vrai patron. Et ça, c'est un truc.
Ah, la tâche de
toujours. Ouais, ah, c'est ça. Si en plus je suis en jupe, j'ai aucune chance.
très bien. Julien, le commentaire qui te déstabilise le plus?
Je veux rencontrer le patron.
Le commentaire qui me déstabilise le plus. Je sais pas, moi, c'est dur ça.
D'un client ou d'un critique ou d'un.
Non, mais ça peut être positif. J'imagine qu'il y a des clients qui t'ont dit que c'était meilleur que la recette de leur mère ou des trucs.
Qui va me faire rougir et un peu me.
Ah bah, ça rougit là.
Non, pas là, mais. Mais ben voilà, c'est les compliments en fait qui viennent de clients, mais et moi ça me gêne et ça me déstabilise parce que c'est des gens qui vont payer en fait. Et moi je déteste encaisser les gens, j'arrive pas. J'ai l'impression de voler en fait.
Tu as choisi ton métier.
Ben ouais. Ouais, mais donc je me casse.
C'est
quoi.
Le mec, il a 6 adresses, mais il aime pas encaisser.
Mais
les gens,
non,
quoi.
Mais c'est vrai. Mais quand on te fait plein de compliments, là sur le repas qu'ils viennent manger, que derrière ils passent à la casserole une deuxième fois.
T'es gêné de faire payer pour nourrir les gens.
Complètement. Donc voilà, ça me déstabilise qu'on me dise c'est génial et que derrière on demande l'addition et de devoir payer pour ce fait, je sais pas, ça me gêne.
Votre pire défaut, c'est pas vraiment une interview de tout, mais quand même, faut lâcher un peu les dossiers là.
À qui, à moi?
J'en ai beaucoup.
Ouais. Moi aussi.
Je suis opiniâtre, je lâche jamais rien, je suis un vrai pitbull.
C'est un pitbull.
Ça peut être
c'est un défaut qualité, quoi.
Ou je suis trop bavarde, j'en ai plein de défauts.
Moi, je suis rancunier, ça va même dans le truc de.
Ah, t'es rancunier, c'est moche. Ça, c'est moche.
Mais c'est faux, pas comme ça, c'est un défaut. Non, mais c'est quoi ces moqueries?
C'est beau
non,
de la vue.
Ah, bah ça y est, il est rancunier. Il est susceptible avec ou pas?
Non, je suis rancunier, ouais.
Tu sais, c'est des défauts comme dans les entretiens. Si t'es trois défauts, trois qualités.
Je suis trop perfectionniste.
Ah bah je suis trop. Voilà, c'est ça.
C'est ça. On a un invité qui vient de passer la porte du studio.
Oui, parce qu'en fait, on demande à nos invités de ne pas venir les mains vides, mais on veut aussi vous régaler.
Génial.
Et on est à Grande Contrôle. Merci. C'est quand même un vivier de super adresses, des de super stands. Ouais. Et on est allé. On a demandé à Calimera. C'est un stand de cuisine grecque.
Non, tu t'y connais, non?
Tout est dans le titre.
Je sais pas.
On verra. Et c'est Télémaque qui va nous apporter le plat. Donc, Télémaque, je t'invite à nous rejoindre pour nous parler de ton plat. À ce micro-là. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté? Ah oui!
Voilà, bonjour. Donc, vous ai apporté deux Calimera Box. Donc, chez Calimera, ici au Grand Contrôle, on fait deux types. On fait soit des wraps, soit des box. Donc les box que vous avez devant vous aujourd'hui pour la même base.
Je fais passer. Hein.
Donc vous avez donc une salade verte qui vient avec notre huile d'olive qui vient directement du sud de Grèce, du Péloponnèse et de ma famille. Donc ça
vous
fait 200 ans.
Vous êtes originaire du Péloponnèse.
Je suis originaire du Péloponnèse, tout à fait.
D'accord. C'est du halloum, ça?
Oui, tout à fait. Oui. Je vois qu'il y a des connaisseurs.
Ouais.
Donc, la box vient aussi avec une salade de pois chiches, où vous avez des olives de Kalamata dedans, qui vient toujours de mon domaine, des tomates cerises, et aussi des tomates séchées, et un dressing qu'on met par-dessus à base de basilic. À côté, vous avez des pommes de terre au paprika, que nous finissons sur le grill, du pain pita, du Papita grec. Et nous avons des voilà, qui vient directement de Grèce. On essaye d'avoir le maximum de produits en fait sur place ici d'accord. en France, mais il y a quelques-uns comme le yaourt, le halloumi que vous avez là, ou donc le papita qu'il faut venir directement de là-bas. Et donc ça vient avec des sauces. Donc nous avons deux types de sauces. Nous avons le tzatziki.
J'adore ça.
Donc, et pareil, j'adore. Deux types de tzatziki, un à la menthe et un autre à la nette. Et après nous avons du houmous. Nous avons un houmous un peu spicy que nous faisons, nous relevons. Et après, vous avez notre houmous qui est fait au persil et à la feta.
Ça, c'est donc, ta passion, le houmous.
Ah non, mais là, je suis paradis, moi. Tu mets du houmous, de la pita, du halloumi, c'est
vous serez, vous serez régalé.
Je mange, je pense,
et donc, pour finir, nous avons donc du halloumi, donc dans la première version de Bob.
Est-ce que c'est un fromage dont les... Grecs, les Turcs, les Chypriotes disputent un peu la paternité.
Moi, je vais pas en fait. Voilà, c'est
pas de combat géopolitique.
Il
n'y
a pas de combat géopolitique. Donc, c'est combat. Non, c'est un, vous avez donc
une DOP, une demande d'IGP. Ouais.
Voilà. Donc, c'est d'origine protégée. D'accord. Donc, il faut que ce soit fait à Chypre pour qu'il soit appelé halloumi. Tout à fait. Donc, c'est un fromage chypriote. Mais de l'autre côté, on fait de la cuisine grecque moderne revisitée. Ouais. Donc, on essaye de trouver des recettes partout dans le monde hellénique. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher ce fromage. Un peu mal connu en France,
oui, c'est pas
mais qui est très bon.
On commence à en manger un peu, ouais.
Et je peux vous dire que les clients les apprécient énormément. Pour le présenter, on dit que c'est comme de la mozza, mais un peu plus caoutchouteux, un peu
et
plus
salé. Et
ça
fait squinch, squinch, squinch quand on
voilà.
croque.
Voilà, et nous, on le met sur le grill avec du thym et de l'huile d'olive.
Ça ne se mange pas, pas grillé. Ça se mange toujours grillé.
Alors, vous pouvez le mettre sur des pâtes.
Ah,
comme ça, frais. Oui. Ouais.
Dans ta salade, Julien, ça sert.
C'est très, très bon. Donc, il faut qu'il soit chaud. Pour qu'ils soient mangés.
Ce qu'on mange dans la box, là, vous le faites aussi en pita.
Tout à fait, tout à fait. Donc là, vous voyez, dans l'autre box, il y a du poulet. Donc, c'est du poulet mariné que nous faisons nous-mêmes et que nous mettons sur le grill. Donc, vous pouvez avoir votre poulet, votre halloumi. Ou on a aussi une version avec du bœuf. C'est un steak haché que nous faisons avec des olives dedans et de la chapelure qui est très, très bon. C'est très léger. Et donc, vous pouvez l'avoir dans une pita avec la salade et les sauces.
Super. C'est beau, c'est bon, c'est plein de peps, c'est plein de goût. Moi, c'est tout ce que j'aime, ça.
Ouais. C'est excellent.
Ça a du caractère.
Le houmous au persil.
Ça sent l'été.
Incroyable.
Ah ouais. Enfin, ça sent l'été.
Une belle acidité derrière aussi.
Merci beaucoup, Télémaque.
Comment est-ce qu'on dit merci en grec ?
Ephraïsto.
Ephraïsto.
Ephraïsto. C'est joli.
Merci à vous.
Merci, Télémaque.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
En plus, c'est joli comme prénom, Télémaque.
Oui, c'est très joli.
Aussi, ouais. Faut être grec.
Ah oui.
Ouais. Sinon, c'est plus tendu, quoi.
Producteur de halloumi, par exemple. Producteur de. On va parler de choses un peu moins drôles. Vous avez combien de personnes qui bossent pour vous ?
120. Enfin,
et
pour
toi,
nous, avec nous, quoi. 120.
120, c'est énorme.
80, je pense, à peu près, là.
Ouais, donc c'est des grosses PME. Je ne sais même pas si on dit... c'est encore une PME,
je
là, 120.
Je n'ai même pas envie de savoir.
Franchement, ça n'a rien du tout. Comment, est-ce que c'est hyper compliqué ? Est-ce que c'est une source d'emmerde ? Est-ce que c'est une source de joie ? Est-ce que vous avez une DRH ? Comment ?
Je n'ai pas de DRH et c'est une vraie putain de source de joie. C'est-à-dire que j'entends souvent, la plupart du temps, les gens me disent « Ah, ça doit être un cauchemar, ça va salarié. » J'ai du mal à... C'est pas ce qu'on vit. On n'a pas de DRH. La plupart des gens qui sont là,
tu n'en as pas besoin.
On en aura peut-être si ça se complique, mais pour l'instant, on n'a jamais eu de problème avec aucun salarié. Les gens restent. Enfin, la directrice du resto, elle est là depuis le premier jour en 2014. Le chef est là depuis maintenant super longtemps. Le chef boucher aussi. Les boulangers, les charcutiers, les fromagers. Enfin, tout le monde. Et puis, il y a un vrai esprit d'équipe. Enfin, je trouve ça vraiment. Moi, j'adore le matin. Je passe dire bonjour à tout le monde et je trouve que c'est un moment vraiment super. Alors, c'est pas la petite maison dans la prairie, hein. Il arrive qu'on se mette les uns sur les autres ou qu'on soit pas d'accord, etc. Mais il n'y a pas de conflit. Je pense qu'en fait, les salariés de la maison Plisson, ils sont contents de pouvoir porter ces valeurs-là et de faire leur métier, parce qu'au départ, ils sont charcutiers, fromagers, primeurs, cavistes, de faire leur métier en soutenant des valeurs et en représentant des familles d'artisans. C'est quand même autre chose que de bosser dans des grandes enseignes de la grande distribution. Bien donc, sûr. Ça donne du sens aussi à leur quotidien. Et je crois honnêtement que c'est une vraie source de joie parce que c'est quand même chouette de se dire qu'il y a 120 personnes qui se réveillent le matin en se disant « Cool, je vais bosser. » Voilà.
Bah c'est comme quand tout même le plus monde, grand pas, des challenges.
Des hauts et des bas, mais je trouve ça... Enfin, moi, je suis un chien de meute, je ne suis pas du tout un loup solitaire. Donc, de toute façon, j'aurais... J'aurais quoi pas pour pu motiver, faire autrement, quoi. Pour motiver, je sais pas, je suis là tous les jours. Hein, ils me voient bosser. Je pense qu'il n'y a pas 50 façons de... L'exemplarité a fait ses preuves, hein, quand t'es chef d'entreprise. Il y a une expression qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Alors, je fais gaffe.
Moi, c'est vrai qu'on vous a invité. Bon, c'est très personnel, mais j'imagine que, Elvira, tu partages mon point de vue. Si je devais faire une reconversion, je pense que je ferais un stage chez vous.
Chez l'un ou chez l'autre.
Ouais, ouais, ouais.
Ah, tu peux faire les deux, je pense qu'on peut se mettre d'accord hein, sur le contrat.
Moi, le truc, c'est que je l'ai déjà entendu il y a 6 mois, mais je t'attends toujours.
Ah. Moi, je t'avais dit que je venais à la boulangerie, je suis pas venue non plus.
Et tiens, celle-là, tiens, ça c'est pour la petite question c'est de tout à l'heure.
À nous, des reconversions, on en fait en interne. Tu vois, on a des serveuses qui sont devenues pâtissières.
Ah, c'est bien ça.
Enfin, ça bouge, des fromagers, des bouchers. On a le seconde cuisine à Beaumarchais, qui sort quand même 300 assiettes entre 11h et 15h tous les jours. Enfin, 300 repas. Il était ingénieur il y a encore 5 ans. Tu vois, il a fait une reconversion pour devenir cuisinier. Donc,
je pense qu'ils nous voient officier dans différents métiers. Et eux ont envie aussi de le faire, de tourner.
Aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont plus personne envie d'être cloisonné dans un truc. Faire partie d'un projet multiculturel, avec plein d'activités différentes.
Sans bénéficier de tout. Ils ont envie de bénéficier de tout.
Absolument.
Adrien, qui m'accompagne depuis 12 ans en salle, m'a demandé il y a un an, avec peur, s'il pouvait aller en cuisine. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais quelle peur. Il me dit, oui, je sais que tu vas me gueuler dessus. Je lui dis, mais quoi, me gueuler dessus, ça va pas, j'étais heureux comme tout.
Oui, mais donc, ces passerelles, elles sont pas si fréquentes, en fait. Ça vous paraît évident, mais c'est pas dans une entreprise normale.
Lui,
c'est pas
il
si
est heureux
bon.
Comme tout. Maintenant, il me tient la cuisine, quoi, à Nost. Enfin, c'est dingue.
C'est génial. Alors qu'il a fait 10 ans de ça. On a des entreprises normales. Tu dis dans une entreprise normale, c'est pas comme ça, mais nos entreprises sont normales. C'est juste que les autres qui sont pas normaux. Ouais.
C'est ça, exactement. Normal parce qu'on a envie qu'elles le soient, quoi. Après.
Vous passez un bon moment?
C'est génial.
C'est super.
Est-ce que c'est presque un perfect day?
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap
just what you sow.
Julien, tu n'en parles pas parce qu'on a parlé de tout. On a évoqué quand même tous tes restaurants. On a dû en oublier
toute ton œuvre.
Voilà, toute ton œuvre. Mais tu as quand même tourné dans une nouvelle émission de télé va être diffusée. Alors, c'est compliqué parce que à l'heure où on enregistre, ça va être diffusé demain. Mais à l'heure où le podcast sera diffusé, c'était hier.
C'est pas facile, cette omniprésence sur les médias nous complique.
Vendredi à 23h15.
Voilà, 23h15 sur TF1, ça s'appelle Cuisine Impossible.
Exactement.
Tu peux nous parler un peu du concept ?
Eh bien, on s'est retrouvé avec Juan
Arbelez
ensemble à choisir deux destinations où il aimerait pas aller. Donc, je l'ai envoyé dans un pays où il aimerait pas aller, et lui m'a envoyé dans un pays où je me sentirais déstabilisé pour cuisiner.
D'accord.
Donc, il a atterri en Islande, moi j'ai atterri au Maroc, et on a devant nous quelques plats que l'on doit reproduire à l'exactitude le lendemain en étant lâché dans la rue pendant 24 heures.
Mais c'est-à-dire que vous allez chez l'habitant ou dans un restaurant ?
Alors, cette fois-ci, c'était dans un restaurant, et on verra pour les prochaines fois, mais cette fois-ci, c'était dans un restaurant, on a goûté des plats de la carte.
Et tu goûtes un plat, et tu dois le refaire à l'identique.
À l'identique.
Et tu dois aller chercher tous les ingrédients.
Bon, moi, en l'occurrence, j'étais dans la Médina, mais il n'y avait pas tout. Donc, j'ai dû prendre un mec en scooter qui m'a trimballé pendant une heure dans la périphérie de Fès. Même à aller chercher des pigeons dans la périphérie de Fès aussi. C'était magique.
Ouais.
C'était un super moment, un super voyage. Moi, je dis en premier, un super moment de rencontre avec la personne qui m'a fait à manger et qui m'a fait très peur, parce que lorsque j'ai goûté ces plats, j'ai vu que j'avais une excellente... un cuisinière, je ne savais pas si c'était un cuisinier ou une cuisinière en face de moi, au moment où j'ai goûté, et je me doutais que ça allait être très dur de les reproduire. Et puis, je n'en avais pas qu'un dans la box, j'en avais quatre en plus. Donc, pour tout vous dire. Donc,
et c'était une galère pas possible, tu t'en es quand même plutôt sorti.
Non, ça en est bien sorti, l'un et l'autre.
Sans triche.
Lui, en Islande.
Mais tu sais, t'es tout seul à Fès, tu triches avec qui ?
T'as pas de potes ?
Non, j'ai pas de potes, je suis tout seul, je suis lâché du matin, à 6h du matin, je me retrouve à manger une tête d'agneau à 7h du matin avec un mec bouilli avec une petite sauce épicée, et après j'ai commencé mes courses, et puis voilà, c'était un super moment. Les deux, on a la même façon de voyager, donc on s'est hyper bien entendu sur le projet, sur l'émission, on va dire, et c'est vraiment sympa.
Tu voyages beaucoup
Oui, je voyage beaucoup. J'ai pas voyagé jeune, donc je me rattrape énormément, et ça me fait, enfin j'adore ça. Et puis en plus, ça nourrit un peu les cartes de nos restaurants et notre vie, quoi. Donc, et j'adore voyager, mais comme je voyageais il y a 15 ans, c'est-à-dire j'arrive, je vais aller manger dans la rue, je vais dormir dans un truc pas terrible, et le lendemain, je peux aller manger dans un gastro, et 4 jours après, retrouver 10 potes qui sont dans le coin ou des pays alentours, et faire une bonne bouffe. Et en fait, bon, c'est un peu ce que j'ai retranscrit dans mes restaurants aussi. Hein, donc, et Rouen est un peu pareil, donc forcément, pendant l'émission.
J'aurais pas aimé aller en Islande. Je trouve l'Islande plus compliquée que le Maroc.
Oui, mais non, c'est compliqué en termes de reportage de produits. Quoi.
C'est ça. En termes de produits, il n'avait rien, pas de marché, qu'un supermarché.
Évidemment,
il fallait que je l'envoie dans un pays où il n'y avait pas de citron vert et ni de coriandre.
Mais c'est compliqué pour lui.
Et où les gens ne parlent pas beaucoup, parce qu'ils parlent beaucoup. Donc...
Bah, l'Islande, franchement, mais voilà, t'aurais pas pu trouver pire.
Donc, il faut que je réfléchisse pour le deuxième.
Bah,
ça m'est super bien sorti. Et le plat qu'il avait à faire... C'est hors du commun.
Attends,
quoi.
Parce que la cuisine islandaise, il y aurait des restos islandais plein Paris si c'était aussi simple.
On peut en parler puisque l'émission sera passée, mais Juan, il s'est retrouvé avec une tête de cabillaud entière glacée. Wow. Si je vous montre la photo avant qu'elle soit mangée, on dirait un dragon de Komodo. Quoi. C'est hard de chez hard. Hein.
Et vous êtes en compétition et à la fin, il y a un jury qui détermine le gagnant.
Ouais, et le jury, en fait, c'est les 10 personnes qui sont les plus habituées du restaurant. Donc, les clients du restaurant.
J'ai hâte de voir.
le concept ah, est génial.
Ouais, c'est énergique. Et puis même sur le voyage, hein, moi je me suis retrouvé à 1h30 de Fès à enlever un bandeau devant un lac en pleine montagne. Enfin, c'était magique. Quoi. Ah, j'ai pris un coup de frisson à peine sorti le bandeau des yeux et je suis lâché dans la pampa, pas une maison à vue. Et voilà, et je me ferme. Bref, vous allez découvrir tout ça, mais c'était plutôt sympa.
Hâte de voir ça. Ouais.
Alors toi, Delphine,
c'est moins extrême.
Si nos sont bonnes et c'est Instagram, tu reviens d'Inde ?
Ah oui, mais alors là, c'était des vacances, mais c'est un pays que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est 20 fois la France, hein, donc je peux pas prétendre connaître l'Inde, mais en tout cas, j'y vais tous les ans. Ouais.
Tu fais une retraite ayurvédique.
Je fais une retraite ayurvédique. Alors le mot est un peu flippant, mais en fait, ça consiste surtout à ne pas avoir de réseau internet, pas de téléphone, une pile de bouquins en retard à rattraper, une alimentation géniale parce que le Kerala est un état dans lequel on mange divinement bien, et puis pas d'alcool. Alors en grande partie végétarien, pas d'alcool, pas de viande. Ça me fait
tu pourrais pas ça, Julie.
Beaucoup de bien. Alors, mon mari a beaucoup de mal. Hein. Mon mari appelle ça un jeûne, dès que je lui enlève l'alcool et la viande, tu vois.
Ah oui.
Mais se tient à peu près. Et puis, on nage, on dort, on bouquine. Donc, c'est du vrai temps off. Je suis incapable de faire ça sans m'éloigner autant. Et c'est une cuisine que j'adore.
C'est une cuisine que tu connais bien maintenant, la cuisine indienne.
Bien, c'est toujours pareil. Tu vois, je peux pas prétendre si Bina m'entend, elle va ricaner. Donc, j'ai énormément de respect et j'adore. Et je passe mon temps chez Rollinger à acheter des épices, les mélanges de Bina pour cuisiner à la maison. Et on en utilise même à la maison Plisson dans certains trucs pour l'apéro. Et j'adore le principe de cette cuisine. En plus, dans le Kerala, effectivement, c'est végétarien. Donc, il y a une créativité autour des produits. Enfin, c'est une merveille absolue, quoi. C'est vraiment, pour mille raisons, j'aime le Kerala, mais en particulier aussi, bien sûr, pour la culture gastronomique. Quoi.
Tu es partie avec ou sans enfant ?
J'en ai emmené qu'un.
Les autres.
Bah, j'ai emmené la dernière, Françoise, parce qu'elle a fêté ses 1 an là-bas, tu vois. Donc, on l'emmène pas l'année prochaine. Elle sera, trop grande. Mais les 4 autres sont restés à Paris. Ouais.
Parce que vous avez chacun une vie de famille ultra prenante. Julien, tu as combien d'enfants ?
3.
Delphine, alors
on en a 5
à
la maison.
C'est une colonie de vacances,
c'est
les Plisson.
Ouais, mais ça va de 1 an à 18 ans, donc tu vois,
il y en a qui se gèrent.
Ça se gère, chaque âge, ces trucs, quoi. C'est génial, hein, ça, pour rien au monde.
Non, mais vous faites comment pour gérer ? Pardon, la question est un peu éculée, c'est un peu une question de magazine féminin, mais en vrai, vous faites comment,
En vrai, je vais te répondre, alors, très sincèrement, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'un jour à la
tout
fois...
Tout le monde n'a pas 120 employés non plus.
Non, mais ça s'organise.
Quand t'es salarié, t'as des horaires, des contraintes, un patron qui va t'imposer un truc qui n'est pas prévu, un problème de santé, quelqu'un qui ne va pas dans la famille. Enfin, comme tout le monde, on jongle. Donc, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de grain de sable, tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire dans la journée. Il n'y a pas énormément de place pour les surprises ou les grains de sable, mais de fait, ça roule.
Vous rentrez à quelle heure le soir à la maison ?
Il faut un agenda. Quoi. Moi, je marque tout dans l'agenda, tout simplement.
Ouais.
Voilà, que ça soit la piscine l'après-midi, sauf toi. Ça soit la piscine l'après-midi, l'émission de radio,
ça
etc. S'organise. Les trucs pour les enfants et la famille en même temps. Quoi.
Tout, effectivement,
le matin, moi, je prends du temps. Donc, je reste en général le matin avec eux.
Ah ouais, alors que moi, je pars tôt. Parce que j'essaye de faire du pilates, donc j'essaie d'aller au moins m'occuper de moi une heure de temps en temps. Et par contre, j'essaye de rentrer tôt, même s'il faut repartir le soir au resto, ce qui est fréquent maintenant. Mais comme on est ouvert 7 jours sur 7, 363 jours par an, de 8h à minuit, il faut bien s'organiser parce que sinon, effectivement, tu te noies, quoi.
Julien, en parlant d'enfants, tu t'es même lancé ou tu es en train de te lancer dans la production de repas pour enfants ou de produits pour enfants ?
Ouais, de petits pots pour bébé. Donc, parce que les deux derniers ont 3 ans et 1 an et demi, donc on était en plein dedans. On en a parlé à Delphine d'ailleurs il y a une semaine ou deux.
Avec joie.
Et effectivement, on lance un super projet en fait de nourriture pour enfants en petits pots, mais tout en bio évidemment, que avec des produits français, que avec des produits sourcés. Je pense que Delphine sait aussi bien le faire que nous, hein, mais essentiellement, comme je pratique actuellement dans les restaurants, 80% de gens du Sud-Ouest. Donc c'est un projet mais qui est différent. Donc moi, quand j'ai eu cette idée, je me dis ok, j'achète un fonds de commerce dans Paris, j'achète des autoclaves, je fais mes petits pots et puis j'ouvre et on vend. Mais non, parce que ça prend une ampleur dingue en fait. On le voit, on le sent, on a le retour de toutes les personnes. Donc on passe de suite en fait dans une grandeur extrême qui m'effraie un petit peu parce que c'est différent à gérer. Donc je ne peux plus le gérer. Donc j'ai l'idée, on monte la société, mais c'est ma femme là qui prend le relais pour gérer tout ça parce que voilà, moi je suis pas bon là-dedans.
On va faire goûter ça à Françoise.
Ah mais Françoise adorera, ça c'est sûr. Ouais.
Bon, après les questions Grostol, on vous a préparé une seconde interview qui va vous plaire. C'est les questions Feel Good.
Cool.
Ça sonne bien.
Pas mal, non?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre frigo qui vous fait plaisir?
Du champagne.
C'est vrai. Ouais.
Toujours un truc à fêter quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Il y a toujours une bonne raison de boire
toujours
du champagne.
Toujours une bouteille de champagne au frais.
Ouais. On sait jamais.
Et toi, Julien, à la maison?
Bah, elle me l'a volé, mais c'est plus pour ma femme que pour moi. Parce que moi, j'en bois pas trop. Mais, alors ça, c'est une certitude. En fait, on reçoit beaucoup. Donc, tous les week-ends, on a entre 5 et 20 personnes, samedi, dimanche.
On n'a jamais été invité.
Ouais, c'est étonnant.
Bah, moi, c'est quand on est en famille, ça.
Ça me serait tardé. Et voilà, et de quoi faire à manger, quoi. Donc là, j'ai envie de dire tout, mais...
Alors, qu'est-ce qu'il n'y aurait jamais pas dans ton frigo? Je sais pas...
En fait, je refuse rien. Et si, non, mais c'est vrai, j'ai du ketchup, j'ai de la moutarde, j'ai plein de condiments, j'ai bref, des baies d'ail des ours de Patrice Lubé qui fait le pastis, on en parlera tout à l'heure, mais qui me donne des baies d'ail des ours au vinaigre. J'ai plein de, bon, beaucoup de, il y a deux étages de condiments. Donc ça, au moins, je sais que je les ai à l'année.
Toujours des condiments, ok.
Et après, beaucoup de légumes qui arrivent de chez mes parents, donc je leur en pique au resto et je les ramène à la maison pour les gosses. Et, qu'est-ce qu'il n'y aura pas
Des Kinder Pingouis.
Moi, il n'y a rien
d'autre. C'est vraiment dommage. Ça.
Alors, c'est marrant parce que, en ce moment, il y en a parce que Monoprix se sont trompés dans les courses.
C'est génial.
Donc c'est,
non, mais
c'est
là,
non, c'est vrai. Ce n'est pas une connerie. C'est vrai. Mais après, justement. Non, je refuserais même les anchois. J'aime pas les anchois, mais à la maison, j'ai trois boîtes d'anchois dans le frigo. Et je me dis, si un jour.
Ouais, t'auras bien l'apéro, tu seras content d'avoir.
Et vu que c'est bien de les faire vieillir, je les fais vieillir, je me dis. Ouais, j'aime pas encore, mais plus vieux, j'aimerais peut-être.
Bon, alors justement. Quel est votre guilty pleasure? Le truc un peu honteux que vous adorez manger?
Alors ça, il y en a un paquet. Alors moi, j'ai une règle. En fait, je pars du principe que si mon alimentation est à 80% vraiment chouette, j'ai droit à 20% de trucs vraiment pas terribles.
Moi, le ratio 80-20 me va très bien.
Ouais, 80-20, ça me semble bien. Non, en fait, j'ai une règle à la maison, c'est que j'ai le droit de manger des trucs vraiment immondes au cinéma et dans les stations d'autoroute. Ah. Donc, j'essaie d'aller au cinéma régulièrement et il faut nous voir débarquer à 7 la première station d'autoroute parce que
ça
c'est spectaculaire.
Non,
je vais pas jusqu'au sandwich triangle, mais je me gaffe de Pimps, on a le droit de dire des marques ou pas, des M&M's, des Maltesers, ouais. J'adore ça. Ouais. Et alors je fais des sacs entiers de junk food, mais en fait dans la vraie vie, mais j'ai vraiment pas de trucs industriels à la maison. J'ai jamais foutu les pieds dans un supermarché depuis que je suis adulte. Enfin, mais j'ai grandi à Créteil, donc j'ai été largement servie en trucs indus. Mais franchement, guilty. En plus, franchement, guilty. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, je me sens pas guilty.
Pas guilty, oui.
J'aime manger, j'aime boire, et j'aime y compris manger des trucs qui sont sans doute guilty, mais que je trouve super.
Guilty,
ketchup.
Ah,
mais
lequel?
Mais pire comme grave. Guilty. Bah, le pas bon. Hein.
Oh, mais t'es gonflé. J'en ai plein des bons.
Tu dis ça comme si c'était vraiment
étonnant. Oui, mais on nous en a envoyé des bons. Mais le pas
Floriel,
bon, quoi.
Catherine
voilà,
Floriel,
le pas bon. Mais je suis capable d'en mettre partout, quoi.
Ah, merde.
Mais c'est grave. Hein.
Dans le riz, dans le riz et dans les pâtes.
Ah, le riz, c'est mon kiff. Mais tu sais que c'est un mariage extraordinaire.
Tu sors.
Le riz taille avec du ketchup, pour moi, c'est une perfection.
Des années de travail qui s'effondrent.
Perfection.
C'est l'équilibre parfait.
C'est le bonheur.
Bon, après, c'est comme disait Delphine, on mange pas ça, on mange ça. Enfin, déjà, pour que je fasse cuire du riz à la maison, faut y aller. Mais le ketchup, non, mais jamais. Dans un petit sandwich.
Ce sera peut-être ta réponse à la question suivante, qui est d'abord, est-ce que vous avez le blues du dimanche soir? Si oui, c'est quoi votre rituel pour le combattre?
Champagne.
Est-ce que c'est le riz au ketchup?
Champagne.
Elle m'inquiète un peu, Delphine.
Ouais, mais c'est les restes, quoi, le dimanche soir. Mais vu qu'on reçoit soit samedi, soit dimanche, enfin, ou les deux, en gros, le dimanche soir, c'est reste. Et c'est souvent un bouillon asiatique.
C'est souvent une soupe, mais mon mari a instauré un truc que je trouve plutôt cool parce qu'on a donc beaucoup d'enfants. Le dimanche, il fait des burgers maison.
Ah, voilà, un rituel anti-blues.
Voilà, ça marche assez bien avec les mômes. Alors, on fait tout, hein, le pain, la viande est super, on met du ketchup, mais celui de Fleuriet. En ce moment, on met de l'ail des ours. Enfin, on se donne un peu, il se donne un peu du mal parce que c'est vraiment lui qui le fait. Et Je trouve que pour les mômes, c'est cool parce qu'on dîne tôt ce jour-là. Il y a école le lendemain.
Plateau
etc.
télé.
Et plateau cinéma, on se fait un film en général. Et vers 18h30, tu vois, on est vraiment... Mais il y a un côté un peu... c'est du comfort food, quoi. Il y a un côté... Ça fait juste bien, quoi. C'est
décidément, tu nous fais les transitions pour toutes les questions. C'est parfait.
Parfait.
On va la dernière question, c'est... Quelle est votre recette la plus comfort food réconfortante?
Ça dépend des saisons. Forcément, en hiver, ça sera des coquillettes à la crème au jambon et aux truffes.
Ah, pas mal.
Ça, ouais, si l'occasion se présente, c'est quand même, ça a fait ses preuves. Mais c'est souvent, moi, ça va être souvent un plat mijoté. C'est bien un truc qui me plaît dans le principe du mijoté. Donc, en hiver, les pot-au-feu, les ossobuco, tous ces plats qui appellent aux copains à passer à n'importe quelle heure. Il y aura toujours un truc, ça sent bon. Je pars du principe que les enfants vont être élevés dans une odeur de cuisine mijotée. Je sais pas, il y a un truc que je trouve rassurant, familial,
oui, c'est
chouette.
Vrai, c'est vrai, tout à fait. Et toi, Julien?
La crème caramel que ma mère fait avec ses œufs du jardin.
Oh là là, Laura.
Mais surtout à la maison, surtout là-bas. Et quand je la fais ici, elle est plus comfort food parce que j'ai l'impression que c'est pas la même, donc ça me saoule. Donc je la laisse faire au pays et chaque fois que je descends, je l'ai au milieu de la table de la cuisine en arrivant. Quoi.
C'est tellement bon une bonne crème caramel. Ouais. T'en sers chez Boulogne?
Non, on n'en fait pas, on fait une crème brûlée en ce moment, crème brûlée, pistache, oui. Mais la crème caramel, en fait, pour qu'elle soit excellente, il faut que ça soit des œufs de ferme, et donc à Paris, on pourra difficilement la faire.
Et une musique réconfortante, Julien?
Au hasard. Réconfortante, je ne sais pas si elle, enfin, elle n'a pas été dans ma jeunesse, mais ouais. C'est celle que j'écoutais le plus, c'est Louise Attaque, là, Je t'emmène au vent, ça dansait bien.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificiel.
Ça te rappelle
ta jeunesse,
cette chanson, ouais.
Ça me rappelle mon premier job à Biarritz en 97. Et ils venaient, et d'ailleurs, ils étaient venus chanter à Saint-Jean-de-Luz, évidemment, j'y étais allé. Et voilà, ça me rappelle tous les requins diablés que j'ai dansé et fait danser dans le sud-ouest.
Tu portais des sarouels et tu faisais du diabolo. Et t'avais les dreads.
J'avais plutôt mon polo de rugby de Colorado. Et le seul à l'avoir à Biarritz.
Alors là, on n'est pas à Biarritz avec ce que tu nous as apporté, Delphine. On est un peu plus au nord, on est dans les Landes.
Ah, on est chez toi.
C'est un truc de
on est chez
ma
Julien.
Boule.
Attends. Qu'on comprenne, c'est que Delphine, tu nous as apporté un dessert
un qui vient de chez Julien. Qui vient de chez Julien et que Julien m'a présenté il y a au moins trois ans, je pense.
Ouais.
Pour la Maison Plisson, en me disant, je sais pas si tu connais ce truc, mais ça vaut le coup. Et on a goûté, on est devenu complètement dingue. Et depuis, alors on avait peur que ce soit un peu, il arrive qu'il y ait des produits un peu trop régionaux, qui sont super bons, mais que les gens à Paris connaissent vraiment pas. Et en fait, là, quand il nous arrive d'être en rupture, les clients se mettent en liste d'attente, quoi.
Ah bon,
il y a vraiment un truc autour de ce produit. Parce que il a toutes les qualités. C'est-à-dire, d'abord, il est évidemment très bien fait, de façon très simple, avec des super bons produits. Il a un petit goût de rhum, de vanille. C'est une merveille.
C'est
et puis, il se garde. Et puis, ça se mange du petit-déj au soir, quand tu rentres à la maison et que t'es un petit creux. Il se mange tout le temps. Toute la famille aime ça.
Il faut imaginer, pour ceux qui n'ont pas l'image, un gâteau rond.
Très jaune,
on pourrait dire comme un panettone à l'extérieur,
tassé,
un pyramide.
C'est le pastis brut, quoi. Le brut chez nous, c'est ça, c'est le pastis tassé.
Ouais.
C'est pas celui qui est aérien et avec beaucoup de levure.
Qui ressemblerait plus à un panettone.
C'est de la farine, des œufs, du beurre, du lait, du sucre de canne, de la levure, du rhum. Je suis sûr qu'il y en a des qui
assortent pas mal. Ça se sent.
C'est en fait, c'est un cocktail planqué.
Il n'y a pas d'arôme, pas de colorant, pas de conservateur. Et c'est une texture, mais atomique. C'est collant un peu, en fait. C'est
mouillé.
C'est hyper humide. Alors, il est hyper humide là parce qu'il a deux jours, en l'occurrence. Il sèche un petit peu après, mais il se garde très bien et il se termine très, très bien.
Il va très bien se terminer, là. Moi, je vous l'annonce.
En brioche perdue, mais
on arrive au terme de l'émission. On va se terminer ce pastis, mais ça va pas faire un pli, quoi. Delphine nous parlait de faire un pastis perdu, comme une brioche perdue, mais même pas la peine.
Il n'aura pas le temps. C'est foutu. Parce que moi, je connaissais pas, et tu me dis pastis... Ouais, a priori, j'imagine un doigt de pastis. Évidemment, tu me connais. Et j'étais pas fan, et en fait, c'est incroyable. Ça.
Non, c'est délicieux. L'histoire, c'est que Patrice Lubé, qui fabrique ce pastis, on était ensemble apprenti chez Cousseau dans les Landes.
C'est
il y a 25 ans. Et du coup, c'était sa maman à l'époque qui les faisait. Il était servi donc dans un 2 étoiles à Magesque. Et après, c'est Patrice qui a repris la recette et qui maintenant l'a. Continue de la
fabriquer. C'est une chouette histoire.
Bah,
comme quoi, il y avait bien un point commun entre vous deux, en dehors de votre énergie, de votre bagou.
D'ailleurs, merci à tous les deux d'être venus casser la croûte avec nous.
Merci
beaucoup. Vous nous avez régalé.
Merci beaucoup à Télémac, Argyriou de Calimera. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Ground Control pour votre confiance renouvelée. Et à PA Perrin derrière la console. Merci à toi, PA. Pour réécouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud et iTunes, podcast, ou sur le site groundcontrolparis.com.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Show.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.